Pop-Pop-Pienne et tous les autres aussi, bonjour. C'est une première dans l'histoire de Pop-Pop-Pop. Nous avons reçu des écrivains, des enfants, des acrobates, des plasticiens, des animaux, des pervers polymorphes, des charcutiers, des philosophes, des anglophones, des chinois, des récompenses, du courrier, des réclamations, des encouragements, des coups, des soins même. Oui, mais nous n'avons jamais reçu de frères. Nous aurions pu. Il fut question un temps d'inviter les Bogdanov, mais ils étaient partis à Menton. Nous avions aussi pensé aux frères Cohen, mais hélas, un océan nous sépare, aux frères Jacques, mais la gratitude du monde fait que seuls quelques octogénaires se souviennent encore d'eux, aux frères Lumière, mais malheureusement, les deux se sont éteints. Bref, nous n'avons jusqu'à ce jour jamais reçu de frères. C'est pourquoi aujourd'hui est un jour spécial dans l'histoire de Pop-Pop-Pop, Pop-Popienne, Pop-Popien. Nous avons le plaisir d'accueillir deux frères, donc, dont les talents cumulés touchent aussi bien à la comédie qu'à la musique. Avec eux, vous en prenez plein les yeux et plein les oreilles avec une palette débordante de couleurs sur laquelle on retrouve aussi bien Johnny que l'affaire Dreyfus, FFF que François Ozon, le rock'n'roll que Bob Dylan. Bref, les frères Poupeau sont les invités de Pop-Pop-Pop.
France Inter. Pop-Pop-Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Melville et bonjour Yarol.
Salut.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans Pop-Pop-Pop.
Merci.
Les Poupeau dans Pop-Pop-Pop. Mashup qui nous donne Pop-Pop-Pop.
Oh, pas mal. Yeah. Les mamas, à l'époque, c'était les mamas et les poupos.
C'est pas mal aussi.
Ouais,
mais
de toi,
je vois que Charline reste absolument quoi, comme d'habitude, bah, dans ces moments délicats. Ok, ouais. Alors bonjour Charline Roux.
Bonjour.
Oui, et merci pour ce soutien au menu de Pop-Pop-Pop. Donc vous deux et rien que vous deux. Mais avant de parler avec vous, de vous, écoutez-moi, moi. Car j'ai une question à vous poser. Une question qui peut faire encore plus mal que de regarder la vidéo de Scheim en train de rater son stage diving. Une vidéo disponible sur nos réseaux sociaux, bien sûr, et cette question, c'est... Pour vous, les frères Poupeau, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses poupopiennes, fraternisantes, jean-pierreuses, melvillienne, ou même, il y a Roland, et parmi mes préférés, il y a celle de Benjamin Biolay, qui ne vous quitte pas l'un et l'autre.
C'est ma culture, en fait, donc pour moi, c'est simple, la pop culture, c'est ma culture, et c'est devenu la culture de tout le monde. En fait, moi, les seules choses qui m'intéressaient, c'était vraiment la pop culture, c'est-à-dire le rock, la BD, la radio, les choses comme ça. Et puis, c'est devenu ma culture. Et puis après, je me suis renseigné sur la culture des gens qui faisaient la pop culture et c'est devenu de la culture tout court.
Ok, ça c'est pour Benjamin Biolay. Maintenant, à votre tour, Melville Yarol.
Alors, viens, tu commences.
Alors, donc c'est marrant parce que justement, pour moi, le mot pop, ça venait du mot populaire. J'étais persuadé que c'était un truc parce que c'était la pop culture, elle était populaire. Et en fait, en lisant un truc récemment, je me suis rendu compte que le mot pop venait plutôt des interjections qu'il y avait dans les BD à la fin des années 40 et un petit peu les âmes, bim, boum, et pop. Ouais. Et que ça venait de ça, effectivement, et que c'était surtout cette culture peut-être un peu du divertissement à consommer comme ça. Ça marchait un peu avec la société de consommation et on est tous, on baigne dans la pop culture des pieds à la tête, quand même, je pense.
Voilà, d'accord. Une très belle définition qui va être difficile de topper, mon cher Melville.
Exactement,
mais
je me creuse les méninges. Moi, je dirais, la pop culture, c'est pas très français, je dirais. En France, on n'est pas très doué pour la pop culture. Tout ce qui touche à ce domaine-là, un peu léger, populaire, commercial, ça devient vite aussi, de la carrément. Merde. Alors qu'en Angleterre, ils ont réussi à produire des choses fantastiques qui soient aussi très populaires. Très pop, les Beatles, enfin même dans l'esthétique qu'il y a quand on se balade à Londres.
C'est peut-être aussi une façon, effectivement, t'as raison, de dédramatiser la culture, quoi, de la rendre peut-être un peu plus attrayante et plus divertissante que le
En France, on est fort pour le champagne, pour les grands vins, pour les philosophes, pour les auteurs un peu pointus, mais pour la pop, en général, on redescend vite en gamme.
Pour les choses plus sérieuses.
Ah, j'ai l'impression.
Nous sommes moins légers en France, peut-être.
Peut-être, on a moins cette culture-là. Voilà, pop.
Très bien, ça vous convient, Charline?
Ils sont forts, hein.
Ah bah oui, je suis obligé de faire valider par Charline, sinon ça ne passe pas. Alors, où en sommes-nous? J'ai votre définition de la pop culture, mais je crois savoir que vous êtes, Yarol, un grand fan des Black Keys, m'abuse-je?
Ah bah évidemment, évidemment.
Bah ça tombe bien parce qu'on va écouter le dernier morceau du groupe qui s'appelle Low High. Hello High, c'est le tout dernier morceau du groupe de rock américain, les Black Keys. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Oh yeah.
Oui, vous avez bien remarqué hein, le geste.
Bien, Giscard d'Estaing.
On aurait besoin tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui avec deux frères qui pèsent dans la pop culture et qui utilisent des paroles plus délicates que ces deux frères-là.
Je suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, t'as chat, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule.
De qui s'agit-il ?
PNL.
Pour le savoir.
PNL. Pour avoir une fille de 17 ans.
Non, non, de qui s'agit-il ? Je parlais de vous. Alors, pour le savoir, passons au pop portrait. Alors, votre pop portrait, c'est votre portrait, bien sûr, mais.
À base de pop.
Et il est signé Charline.
Aujourd'hui, deux invités qu'on dirait tout droit sortis de la mythologie. Ambiance, les dieux des arts avaient décidé de les doter du sens du jeu et de la musique. J'entends personnellement de la harpe dans ma tête en disant cette phrase. Et pour cela, ils décidèrent de se faire un petit dispatch pépouze. Oui, c'est du grec. À Melville de jouer les Dionysos, à lui donc le théâtre et le cinéma par extension. Dionysos par ailleurs le dieu du vin, mais je n'ai aucune info de ce côté-là. Un Dionysos nommé trois fois au César, ce qui m'amène à cette réflexion suivante. Dis donc l'Académie, pourquoi on lui donnerait pas au hasard pour Grâce à Dieu de François Ozon, toujours dans 61 salles en France le 3 juillet en DVD, à ne pas rater. Pardon pour cette longue incise. Et donc, suivant mon raisonnement tortueux, à Yarol d'être Apollon, dieu de la musique et du chant, et aussi de la lumière, mais je n'ai pas d'infos de ce côté-là. À son crédit, de nombreux albums, j'additionne FFF, Heartbreak Hotel, Yarol Solo, Mud, Black Minou, et avec, sur trois de ses projets, un featuring de Dionysos, car plutôt de se livrer à un duel fratricide comme il se doit sur l'Olympe, bah, nos deux invités mélangent allègrement leurs projets et activités. C'est parti pour une heure d'agape, à vous Zeus.
Ouh, oh yeah. Tout ça est remarquablement concentré, comme toujours. Merci Charline. Alors attendez, Minou, d'accord. Mais pourquoi Black ? Ça porte pas malheur ?
Non, c'était une blague, franchement, c'était...
Black Minou ?
Oui, Black Minou, exactement.
Black Minul.
On était allé faire un concert au tout début de cette histoire, là, quand le groupe n'avait pas encore de nom, on est allé jouer à Vannes un soir en Bretagne, et franchement, on cherchait même pas vraiment un nom, quoi, parce que c'était histoire d'aller faire les cons dans un bar en Bretagne, et le mec, en nous ramenant à l'hôtel, nous dit, c'est dommage, c'est fermé ce soir, mais si ça avait été ouvert, je vous aurais emmené au Black Minou. Et là, dans la voiture, on a tous hurlé de rire, on a dit, le Black Minou, mais c'est quoi? Et on a dit, bing, voilà le nom du groupe.
Je n'ose même pas imaginer ce que c'est.
Voilà, heureusement que ça n'est fermé d'ailleurs.
Alors, Black Minou, donc. Oh, oui, bon, ça va, on a compris. Merci, Gisela. Pour savoir ce qui vous fait ronronner sur la planète pop, passons à votre pop list, Yarol et Melville. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre Yarol, vous avez choisi La Rage de Vivre. C'est la biographie du clarinettiste et saxophoniste américain Mez Mezereau. Charline, qu'aurait fait Louis Pasteur en apprenant que Mez Mezereau avait la rage de vivre ?
Il l'aurait vacciné. Mezereau y raconte tout. Son enfance à Chicago, sa découverte du blues en prison, ses premiers contacts avec les musiciens de jazz dans la banlieue ouest de Chicago, son travail acharné, la drogue qu'il consomme et qu'il deal, et ses rencontres avec les plus grands comme Louis Armstrong et Sidney Bechet.
Bien. Yarol, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Ces drummers du quartier sud orientèrent le jeu de Gene dans un sens entièrement nouveau. C'est là qu'il mesura les immenses possibilités de la batterie. Il était tellement bourré d'idées et d'inspiration qu'il installa son attirail en permanence chez lui dans le salon et se mit à étudier jour et nuit. Un soir, que nous étions restés dehors assez tard, je demandai à Jean ce qu'en penserait sa mère. Il me répondit « Oh, rien Milton, du moment qu'elle sait que je suis avec vous. Maman vous considère comme un génie, alors tout ce que je fais en votre compagnie est très bien. »
La rage de vivre de
Mez Mezereau. Et par le Gene Krupa, un batteur de jazz
mais
incroyable.
Mais oui, un batteur extraordinaire, qui a dit d'ailleurs une de mes phrases préférées sur Terre. Vous voulez savoir laquelle ?
Ouais,
oui, j'espère, parce que sinon, si vous me dites non, on s'en fout. Je vous l'ai dit.
Ah bah oui, il y a ça.
Une histoire,
c'est une phrase de Gene Krupa. La phrase de Gene Krupa, c'est typiquement une phrase de batteur, c'est « être à l'heure, c'est déjà être en retard ». J'adore ça.
J'adore. C'est pour un batteur, ouais, sur le rythme. Quoi.
J'adore, j'adore. Alors, c'est votre bible en matière de bio, avant celle de Keith Richards, avant celle de Bruce Springsteen.
Avant celle de Bob Dylan.
Alors, franchement, Bob Dylan, ces questions, franchement,
la Chronicles.
Oui, mais c'est pas une vraie bio.
Pas entière. Bah justement, c'est ça l'élégance.
Bio, c'est ça qui est. Ouais, c'est ça.
Ok, d'accord. Donc. C'est-à-dire on va y revenir à Dylan, ne faites pas trop le malin, mais on va y revenir.
Je suis là.
Le truc que j'aime beaucoup dans ce livre, alors il faut savoir déjà que quand on me pose ce genre de questions, c'est quoi votre livre culte? Je commence à sortir une liste de 25 et puis après j'ai crème, c'est un enfer, j'ai horreur de ces questions-là. Mais il se trouve que, contrairement à une bio de Keith Richards dont je connais le travail et l'œuvre par cœur, celle de Bruce Springsteen ou celle de Bob Dylan, même si ce n'est pas forcément une bio, là il se trouve que quand j'ai lu cette histoire de Mez Mezereau, je ne savais pas du tout qui était ce Mez Mezereau, je n'avais jamais entendu une note de musique sortie de sa clarinette.
Ah oui, c'est pas donc, tout à fait votre terrain de jeu.
Voilà,
habituel,
exactement. Donc là, j'ai eu juste l'impression de m'être embarqué dans un roman et dans une histoire sans pouvoir rattacher ça forcément à un être, à une carrière musicale et à une à quelqu'un que dont je connaissais le travail. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin. Vous l'avez lu ?
Oui, il y a très longtemps. Ouais. Mais en fait, on y retrouve les mêmes dérèglements, la même folie.
Exactement. Et c'est génial que ce soit transposé dans les années 20 et 30 et que ce soit un livre extrêmement rock'n'roll.
Absolument. Bien. Melville, vous, je sais que votre Bible, non pas en termes de biographie, c'est la Bible tout court. Enfin, tout court, ça fait quand même 3000 pages. Hein. Alors, plutôt ancien.
Le Nouveau Testament.
Ou Nouveau Testament.
Mais je me suis mis à l'ancien récemment parce que je suis des cours qui m'intéressent beaucoup. Ouais. On parlait beaucoup de la Torah. Mm-hmm. Et donc, mais sinon, alors, en règle générale, moi, je lis plutôt le Nouveau Testament. Oui.
D'accord, on en reparlera tout à l'heure.
Absolument, je vous attends.
Alors, Melville, votre film culte à vous, c'est Five Easy Pieces. Cinq pièces faciles en français. C'est un film de 1970 réalisé par Bob Rafelson avec, entre autres, Jack Nicholson.
Ah oui.
Charline, je n'ai jamais compris pourquoi ce film de Rafelson portait ce titre et j'attendais impatiemment que quelqu'un me l'explique. Sera-ce vous ?
Non. Pas là. Nicholson y est Robert Dupuy, foreur pétrolier, également pianiste de musique classique issu d'une famille de musiciens excentriques, ce qu'il cache à son entourage, et il décide de se rendre sur la côte ouest pour se réconcilier avec son père mourant.
The triple award winner, Five Easy Pieces.
I'm around a lot, not because I'm looking for anything really, but because I'm getting away from things that get bad if I stay.
If a person has no respect for himself, no love of himself, his work, his friends, his family, or something, how can he expect love in return? Why should he ask for it?
Melville Poupeau, quand on est un jeune acteur, qu'on découvre Five Easy Pieces et qu'on découvre Jack Nicholson, est-ce que ça devient instantanément une espèce de valeur étalon ?
Non, je suis devenu fan de Jack Nicholson sur le tard, j'avais vu ses films avant, mais c'est beaucoup la revision de ce film-là qui m'a vraiment plongé dans son travail. Du coup, j'en ai revu plein d'autres après, de la même époque, dont Vol au-dessus d'un nid de coucou, La dernière recrue, Chinatown et tout ça. Et puis voilà, c'est devenu mon acteur préféré, en compétition avec certains autres, mais je veux dire... Il a une folie, une liberté, puis dans les choix qu'il a fait de personnages, il défend souvent des idées. Ça, j'aime beaucoup l'idée de, en tant que comédien, d'être un peu plus que juste un interprète. Lui, en l'occurrence, il a aussi une vision un peu politique du monde.
Et ce film de Rafelson en particulier, vous pouvez m'expliquer pourquoi il s'appelle Five Easy Pieces ?
Eh bien, parce que c'est cinq pièces faciles de... Donc c'est Bach ou Beethoven, je sais plus, de Bach, que le type sait jouer, mais comme il joue plus de piano, quand il revient dans la maison de famille, il se met à frimer devant une nana qu'il essaie de séduire en lui jouant un morceau fabuleux, et la fille a les larmes aux yeux, elle trouve ça magnifique, elle lui dit « qu'est-ce que c'est beau ce que vous avez joué ?» Il lui dit « mais moi j'en ai rien à foutre, ce que j'ai joué, moi ça m'a rien coûté, j'ai eu aucune émotion, je vous ai eu, ce sont cinq pièces faciles, ça fait partie des cinq pièces faciles. »
J'ai l'impression que vous parlez de vous là, non ?
Moi je fais de la basse, ouais.
Melville, toujours vous, votre série culte est en réalité cultissime car il s'agit de Columbo, une série créée par
Richard. Alors avec Carole, en venant, on s'est dit un peu, on est vraiment des vieux pépés ringards parce qu'on n'a pas choisi de série très jeune et très...
C'est très bien, vous allez m'expliquer pourquoi Columbo, série créée par Richard Levinson et William Link. Charline, une dernière chose... Où étiez-vous lundi à 18h45 quand le feu s'est déclaré à Notre-Dame ?
Dans ton quartier, Antoine, donc pas du tout près de Notre-Dame.
Ah, c'était ça ?
Oui, voilà. Il s'agit pour ce choix de la première série télé sans suspense, puisque le lieutenant Columbo, vêtu de son impair accompagné de son basset au volant de sa 403, identifie dès le début de l'épisode le coupable.
Je dois vous dire le plaisir que ça m'a fait de vous rencontrer. Votre émission télévisée a sauvé mon ménage.
Sauvé ?
Ma femme, oh, c'est une épouse modèle, mais elle a fait une dépression il y a un an. Elle avait peur de grossir, et quand elle fait de la dépression, elle ne pense qu'à manger des lasagnes, des rigatoni...
Et plus elle mange, plus elle grossit.
Et voilà.
Bon, alors c'est un très bon choix, Columbo.
Passionnant épisode. Une lasagne meurtrière.
Mais pourquoi est-ce que vous avez le moindre doute au sujet de Columbo ?
Ah non, moi j'ai zéro doute. Vous savez qui a réalisé l'épisode zéro de Columbo ?
Non. Spielberg ?
Yeah, bravo.
Oh, Charline, quelle maîtresse.
Non, mais il y a des castings de dingue dans cette série. Il y a des épisodes avec Johnny Cash, avec des stars du cinéma. Il y a tout le monde. C'est
Jenna Roland.
Ça vous irait pas mal comme rôle, je trouve, Melville.
Merci. Un vieux mec ravagé, un peu crado.
Mais non. Non, mais cette espèce de distance et de.
Voilà. Ah non, il est pas. Enfin oui. Bon, bah, je vous remercie parce qu'en tout cas, moi je pensais que Peter Falk c'était avant tout les films de Cassavetes et que ce truc c'était un truc accessoire dans sa vie. En fait, c'est un rôle génial qu'il a incarné avec génie.
Et pendant voilà, quoi c'est... Pendant au moins une vingtaine d'années en plus.
En plus que ça. Il y a genre...
Mais vous la regardez cette série tous les deux ensemble parce que je dois préciser pour les milléniaux qu'il n'y avait pas à l'époque Netflix et avec les comptes séparés.
Non, mais on a regardé ça quand on était mômes. Nous, ça passait à la télé. Hein. C'était des rendez-vous précis. Ah, oui, t'as vu le dernier Columbo et dans la cour de récré le lendemain, on en parlait. Ouais.
C'est ressorti en DVD, moi je regarde encore des DVD, donc j'ai le coffret intégral.
Très bien. Yarol, terminons cette pop list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
It'll be sweeter than sugar with you every bite. Crawfish,
c'est Elvis bien sûr, extrait de la BO du film King Creole de 1958 avec Elvis Presley donc. Le King, incontestablement.
Ah bah oui, évidemment, ouais. Moi, c'est lui, la première étincelle qui m'a vraiment envie de donner envie de faire du rock'n'roll et de faire de la musique. Et quand j'ai vu Elvis Presley à la télé, et ce film, la King Creole, c'est un des premiers que j'ai vu d'ailleurs, et c'est reconnu comme étant peut-être son meilleur film parce que Michael Curtis, parce que Karl Malden, plein d'autres gens dedans. Et voilà, et cette chanson est géniale parce qu'elle est un peu atypique dans la carrière d'Elvis. Et j'adore le groove qu'il y a derrière. La séquence est géniale, la séquence d'ouverture du film, il est au balcon, il y a une nana qui passe pour vendre. Puis c'est une super recette de cuisine. Si on ne sait pas comment cuisiner les écrevisses, on peut écouter attentivement les paroles et donc on apprend qu'il faut les faire
écrevisses griller,
voilà. À la poêle, Presley, où on peut les bouillir.
Bien, Melville. Bien.
Question technique, c'est qui le plus fort? C'est le King ou le boss?
Ah bah c'est le King.
Bah oui, le boss a reconnu que le King
boss
était...
Le boss admire le King.
Bah oui.
D'accord.
Mais le plus fort, c'est Bob.
Il n'y aurait... Bon, on va en parler. Il
n'y aurait pas... Non, mais... Cette heure va être tellement plaisante.
Il n'y aurait pas eu de boss sans King. Sans King.
Voilà. D'accord, très bien.
Il n'y aurait pas eu simplement. De Bob non plus sans King.
Voilà.
Il n'y aurait pas eu de Bing sans Cross.
Et nous ne serions pas là pour parler de tout cela. Bien, merci donc au King. Vous faites partie de ceux qui sont persuadés qu'il est toujours sur une île déserte en train de siroter une noix de coco?
Ah non, pas du tout. Non, c'est pas sur une île déserte. Non, il est
chez lui tranquillement.
Il est à Las Vegas, au dernier étage du Caesars Palace. Non, je pense que malheureusement, ça aurait été intéressant de voir d'ailleurs ce que ça aurait donné s'il avait continué.
Il a vraiment quitté le building pour de bon là.
Ah ouais. Okay. J'avais peur. Hein.
Alors Melville, nous vous avons demandé de choisir une chanson culte. Vous nous avez répondu donc Bob Dylan, et c'est étrange comme choix car je sais que le premier disque que vous avez acheté, c'est Infidels.
Ouais.
De Bob Dylan. Le dernier, c'est le coffret de Dylan More Blood, More Tracks, les bootlegs numéro 14, je crois. Et je sais que pour travailler, vous mettez du Dylan. Pour faire l'amour, si je peux me permettre, vous mettez du Dylan.
Oui.
Et donc, étrangement, votre chanson culte, c'est ça. Abandoned Love, c'est un morceau de Dylan enregistré en 75. Bob Dylan, c'est un artiste qui vous parle?
Oui, tous les jours.
Vous lui parlez aussi?
Enfin, moi, je lui parle beaucoup, lui, il me répond peu. Mais l'autre jour, j'étais au concert au Grand Rex.
Auquel? Parce qu'il y en a eu trois.
Au deuxième. Mm-hmm. Mais le troisième soir, j'y suis retourné, j'ai attendu une heure dans le froid à la sortie des artistes pour essayer de le voir. Effectivement, il est passé à côté de moi et il m'a jeté un regard au travers de ses lunettes noires, mais j'ai compris ce qu'il m'a dit, quoi.
C'est-à-dire,
continue. Il m'a dit continue. Mais cette chanson-là, ce que je trouve, c'est ça qui est génial chez Dylan, c'est qu'on n'en finit pas de décrire des choses. Celle-là, je l'ai découverte sur le tard, et c'est un bootleg de Desire, l'album de 75, qu'il a pas mis sur l'album, alors que c'est peut-être sa plus belle chanson, en tout cas peut-être la plus belle chanson de Desire. Donc, ce type est capable de ne pas mettre ses plus grandes chansons sur des albums et de les garder secrètes. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on devient un vrai Dylanophile, c'est qu'il y a une espèce de mystère et de jeu de pistes.
Ah oui.
Il n'y a pas de ressortir des bandes, des versions, des chansons inédites.
Je pense que c'est le type le plus enregistré de tous les temps, puisque dès 61, il y a des fans qui l'ont enregistré dans les.
Mais c'était quoi le premier déclic? Pourquoi sur Infidels?
Parce que c'est l'album que...
Produit par Neufleur, vous vous souvenez?
Bien sûr, oui, qui est un très bon album, ouais, d'ailleurs. Mon copain de l'école, Gaël Barbieri, son beau-père était un espèce de rocker, fan de Dylan, et donc chez lui, on écoutait cet album, qui était sorti quelques années avant, puisque j'avais pas 10 ans. Enfin, j'ai découvert pas en 83, mais un petit peu plus tard. Et qu'on a commencé à triper là-dessus, sans comprendre les paroles. Mais ce qui est dingue, c'est que le plus grand dylanophile que je connaisse, qui connaît tout par cœur, qui lui se tape les 36 CD religieusement et tout ça, ne parle pas anglais.
Ouais.
Donc il ne comprend rien des paroles de Bob Dylan. Et ça ne l'empêche pas d'être le plus pointu et de rivaliser avec les plus grands dylanophiles américains.
Il faut dire aussi que quand on était môme, notre mère écoutait beaucoup Dylan aussi. Je sais que notre enfance a été bercée beaucoup par la BO de Pat Garrett and Billy the Kid, qui est un album que moi j'adore, par justement Desire et Blood on the Tracks aussi, qui passait souvent à la maison. Donc on était quand même déjà un peu dans le bain.
Melville, vous pouvez me refaire le regard que Dylan vous a lancé à la sortie?
Je vais mettre mes lunettes.
Ah, elles étaient noires comme ça, oui.
Non, c'était des Ray-Ban, mais gouttes d'eau. Et il a marché comme ça.
Ouais.
Il a tourné la tête vers moi.
Ouais. Il a fait ce petit rictus, là.
Voilà, c'est ça.
Un bel instant de radio.
Ça veut dire continuer.
Et il est parti. Et j'étais avec un ami, Thomas Bouju, que vous connaissez peut-être.
Très bien.
Qui, lui, a osé pousser un garde du corps, s'approcher de Bob, dire « Can I shake your hand, Bob ?» Et il a touché la main de Bob. Et figurez-vous qu'elle était chaude et douce.
Oui, car il est toujours vivant.
Ouais.
Oui. Je résume. Mesro, Five Easy Pieces, Columbo, Bob Dylan et Crawfish. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ce beau bordel.
Je dois vous dire le plaisir que ça m'a fait. Votre émission télévisée a sauvé mon ménage. Elle a fait une dépression il y a un an.
Getting away from things that get bad. I stay.
C'est là qu'il mesura les immenses possibilités de la batterie.
Elle ne pense qu'à manger des lasagnes, des gâteaux,
et plus elle mange, plus elle grossit.
Fontanard qui s'est dépassé une fois de plus. Bravo, Ghislain.
Ouais, merci, ça fait plaisir.
Melville, Yarol, vous êtes tous les deux pop. Ça tombe bien parce que vous êtes dans Pop Pop Pop, autre point commun. Vous êtes tous les deux chanteurs et ça tombe bien car j'ai envie d'écouter un morceau, là, ici, tout de suite. Alors, pour savoir si on écoute un morceau de Melville ou un morceau de Yarol, je vais vous demander de vous départager au pierre-feuille-ciseau. Allez-y. Pierre-feuille-ciseau.
Yarol.
C'est Yarol. Bah, alors, on va écouter ça, tiens. Un extrait de votre nouvel album.
C'est du propre.
Album solo, Yarol.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
salle dans Pop 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 sur France Inter. C'est extrait de l'album Yarol, pour le plus grand plaisir de Yarol, qui dansait d'ailleurs. Sa musique, ça vous a plu, Yarol, donc?
Ah bah moi.
Alors que Melvin restait très sur son compte à lui.
Non, j'ai que je dansais aussi à l'intérieur.
Mais il parlait avec Dylan.
Il regardait Dylan danser.
Je revoyais son regard et il aimait bien.
Il regardait les lunettes de Dylan. Mais attendez, parce que l'album s'appelle Yarol. Où êtes-vous allé chercher ce titre, Yarol?
Ah, tu veux dire les origines de ce prénom?
Non. Comment d'où est venue l'idée d'intituler cet album Yarol?
En fait, je savais pas. Moi, j'avais pas d'idée de. Je savais pas si ça allait continuer avec l'histoire de Black Minou, mais qui était quand même plus un projet pour faire des reprises et pour faire les cons un peu dans les clubs à Pigalle. Si j'allais trouver un autre nom de groupe, si j'allais être un groupe, ça changeait de personnel tout le temps, ça changeait de musicien. Donc, au bout d'un moment, je savais plus comment appeler ce truc-là. Et tout d'un coup, Bob Dylan m'a parlé. Et il m'a dit.
Regardez.
Appelle ça Yarol. Et donc je me suis réveillé en suant dans mon lit et je me suis dit, mais je vais l'appeler Yarol.
Attendez, thank you, Bob.
Melville, vous, si je me souviens bien, en 2006, vous tourniez dans un film qui s'appelait Melville, non?
Exact, que j'avais réalisé.
Vous aviez réalisé. Et où étiez-vous allé chercher ce titre?
Très mystérieusement, un soir, j'ai vu Bob Dylan en rêve et au travers de ses lunettes noires.
Mais là, Yarol, après avoir officié pour les autres et avec d'autres, ça fait quoi de voir son nom et rien que son nom sur une pochette d'album?
Moi ça m'a fait plaisir. Effectivement, je trouve que j'ai essayé de faire un disque qui me ressemble, dans lequel j'ai mis beaucoup de mes influences et de toutes les couleurs musicales qui ont fait le musicien que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une bonne énergie rock, une colonne vertébrale, on va dire, rock'n'roll, mais avec du funk, de la soul, des trucs un peu plus africains, des trucs un peu plus barrés, des balades. Si j'avais une idée de titre pour l'album, je l'aurais peut-être mis dessus, mais j'aimais bien ce côté premier album, de le revendiquer complètement et de marquer mon nom. En plus, il y a un truc qui est quand même, pour les gens qui me connaissent, on se dit la mise en prénom, mais imaginez quelqu'un qui ne connaît pas mon prénom, il se dit, c'est quoi ce groupe Yarol? Il y a aussi un côté un peu, c'est quoi nom, c'est quoi ce truc? Il y a un côté un peu, on se demande ce que c'est.
Yarol, est-ce que c'est le cap des 30 ans de carrière qui vous ont décidé à franchir le pas de l'album solo, ou l'envie était là depuis longtemps?
Bah, comme je vous disais tout à l'heure, je savais pas vraiment si c'était un album solo, un album de groupe. Quand j'ai commencé à travailler sur ces chansons, l'envie, elle est forcément là depuis longtemps. On y pense, on se dit tiens, un jour je ferai un disque vraiment avec mes chansons que je vais revendiquer pleinement et tout. Le cap des 30 ans de carrière, je m'en étais même pas rendu compte. Moi, j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Enfin voilà, donc non, c'est plutôt effectivement un truc auquel je pensais depuis longtemps. Puis là, les choses ont fait que c'était le bon moment. Je me suis dit hop. C'est le moment, on y va.
De manière plus générale, est-ce que vous vous accompagnez mutuellement, professionnellement? Est-ce que vous consultez sur vos différents projets?
Ah bah complètement, oui, évidemment. Bah, c'est-à-dire que déjà, en l'occurrence, pour rester parler de cet album, Melville a été là depuis le début. Parce que
oui, quand on a commencé. Il y a des titres qui ont été mûris sous Black Minou.
Exactement, il y a des titres qu'on jouait déjà sur scène avec Black Minou. Au moment de l'enregistrer, il y a eu tout une vraie part de. C'est-à-dire que quand on est rentré en studio, moi j'avais un peu une idée des morceaux que j'avais envie d'enregistrer, mais les arrangements n'étaient pas finis. Donc le groupe a vraiment participé, Melville beaucoup aussi. Donc évidemment, et puis dès qu'il y a des nouveaux trucs, je lui fais écouter. Et pareil, quand Melville fait des trucs, il m'en parle et tout.
Alors, on est une petite bande de notre génération à faire un peu de musique ensemble. Il y a Baz, maintenant il y a Benjamin qui a écrit des paroles pour Yarol, avec qui moi j'ai joué, donc ça circule quand même pas mal.
Oui, bien sûr.
Et alors, puisque vous êtes polyvalent en musique et ciné, vous n'êtes jamais retrouvé en concurrence sur un projet? Non, c'est pour mon projet de duel fratricide de début d'émission.
Games of Thrones.
Un truc un peu... Non.
Non, j'ai pas eu encore... On n'a pas eu de... Je n'ai pas encore volé de rôle au cinéma, par exemple.
Mais j'aimerais beaucoup qu'Yarol se mette au cinéma, parce que je pense qu'il a de grands talents d'acteur.
Ça ne m'étonnerait pas du tout. On a vu quelques apparitions, pas mal.
Ouais, mais alors j'ai joué plusieurs rôles. J'ai joué le rôle de Yarol Poupeau.
De Bob Dylan aussi.
Non, j'ai joué le rôle du guitariste de Johnny Hallyday aussi, une fois. J'ai joué le rôle du frère de Melville.
Très bien.
Dans un film de Zoé Cassavet. Mais des rôles.
C'est dans Rock'n'Roll aussi. Hein.
Ouais, je joue le rôle de Yarol, ouais.
Absolument.
Quel effet ça fait de jouer le rôle du frère de Melville?
C'était très 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 difficile.
Est-ce que c'est troublant? Est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que.
Composition.
Complètement.
Un rôle Oscar.
Ouais, il a fallu que je passe 15 jours avec Melville avant pour bien comprendre comment il fonctionnait. C'était l'enfer.
D'accord, on va parler aussi de cinéma un peu plus tard dans l'émission, après les pop news, mais je voulais montrer en début d'émission, lequel de vous deux sait faire ça?
Les deux. All right. On peut pas faire en stéréo.
Vous pouvez me le faire en
1, 2, 3.
Pas mal.
Pas hyper synchro.
Je vous laisse 4. Une dernière chance. Pas mal. Bon,
on met 3 ou 4.
Vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
Vous n'en pouvez plus des super-héros, alors vous allez adorer ceux dont je vais vous parler. Ils sont devenus tous pourris, corrompus, la célébrité leur a fait péter les plombs et montrer leur vrai visage. Et c'est pas Jojo. Une équipe de justiciers décide de passer à l'action et de les abattre. Ils se font appeler The Boys et c'est aussi le titre de la série dont voici la bande-annonce à ne pas mettre devant tous les yeux, c'est bien trash.
We're the world's greatest super-heroes. And I can do whatever the fuck I want. Huh? Who's up for that? That's where I come in.
Come in to do what?
Spank the bastards.
How do you spank a superhero? My time
is expiring. Boom.
Cool. Cool, cool.
Précision qui a son importance, c'est une série créée par Evan Goldberg, Eric Kripke et Seth Rogen. The Boys, ça arrive le 26 juillet sur Amazon Prime.
Prochainement dans vos cinémas, un nouveau film qui fait peur. Son titre, Nous avons toujours habité le château et ce nous, c'est Mary Kat et Constance Blackwood qui vivent seules et isolées avec leur oncle Julian après une tragédie familiale. Et puis la population se méfie d'eux car tous les autres membres de cette mystérieuse famille sont morts empoisonnés. Et l'arrivée de leur cousin Charles menace le sombre secret qu'ils s'efforcent tous de garder.
Father built this gate to keep us safe, but it could not protect him.
My mom says you and Constance eat rats!
Holy witch!
People here believe Constance killed Father.
One of the true, genuine mysteries of our time.
There is such a thing as good taste.
Have you ever tasted arsenic?
What are you doing? I heard Father in his room. I feel him coming back.
Mary Kat, it's our cousin, Charles Blackwood. He looks just like Father.
Toujours habité le château. C'est avec Thaïssa Farmiga, Alexandra Daddario et Crispin Glover et Sebastian Stan, le Winter Soldier de Captain America. C'est prochainement sur vos écrans.
Ils s'appellent Night Moves, ils viennent de Minneapolis, ils sont copains d'école et leur ambition à l'origine était de fusionner le rock des années 70 avec un soupçon d'indie country. Ceci est leur nouveau titre, Strand the Line. Et Strand the Line figurera sur Can You Really Find Me, le nouvel album de Night Moves qui arrive de manière imminente.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Bob Dylan.
Mais non, Johnny.
Ah, pardon.
Johnny. Bravo. Oh, Johnny, on y a tous.
Enfin, c'est... Okay.
J'étais pas, j'étais pas. J'étais pas.
Non, c'est Johnny, quoi.
Complètement, quoi. J'ai cru d'ailleurs.
Oui, c'est moi.
Non. Oui,
évidemment, c'est pas toi.
Bon, merci Charlie. On continue cette spéciale famille en or avec Yarol et Melville Poupeau. Juste après un morceau, cette fois de Melville Poupeau. Alors c'était sur l'album Songbook en duo avec Benjamin Biolay et le titre c'est Bossa Nova, Bossa numéro 69 avec vous en solo, c'est clair?
Non.
Bon de vivre.
Melville Poupeau, Bossa N, c'est extrait de l'album Songbook, album réalisé avec Benjamin Biolay. Nous recevons aujourd'hui les frères Poupeau, Yarod et Melville.
Yarod Stewart.
C'était bien. Nous recevons aujourd'hui les frères Poupeau, Yarod Stewart et Melville. Le premier vient de sortir son premier album solo qui s'intitule Yarol, à la surprise générale, a commencé par celle de Bob Dylan. Vous ne croyez pas ses oreilles.
Non, c'est lui qui a validé.
D'accord. Alors, juste encore quelques mots sur cet album, Yarol. Vous posez devant l'objectif de Jean-Baptiste Mandino, qui avait pour ambition de rappeler la pose de Springsteen sur la série de photos qui accompagnait la pochette de Born to Run. Alors, j'y suis évidemment personnellement très sensible, comme vous l'imaginez. Et j'en profite pour vous demander si vous aimez Bruce, et j'espère ardemment que la réponse est oui.
Bah moi je suis un grand fan de Bruce Springsteen. Je crois que peut-être c'est les concerts qui m'ont le plus touché. Je l'ai pas vu souvent, j'ai dû le voir deux ou trois fois et à chaque fois j'ai été vraiment c'est le modèle pour moi de ce que est censé être un concert de rock and roll dans l'énergie, la générosité, la conscience aussi quand même mine de rien de des textes vraiment la manière de mélanger l'entertainment, je sais pas, c'est pour moi le concert de rock'n'roll parfait.
Melville, vous allez me dire que c'est moins bien que Dylan?
Non, je l'ai jamais vu en concert Springsteen.
Comment ça, vous l'avez jamais vu?
Mais non, mais par contre, je l'ai rencontré en vrai et c'est grâce à vous, Antoine. Vous me l'avez présenté. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'avais fait Nulle part ailleurs dans les années 90.
Oui.
Et vous étiez accompagné de ce petit bonhomme et vous avez dit, je vous présente Melville à Bruce et Bruce à Melville. Et vous avez dit à Bruce, peut-être qu'un jour il pourra produire un de vos disques. Et Bruce a rigolé, il m'a serré la main.
Mais ça ne s'est jamais produit, hélas.
Non, malheureusement. Non,
mais si vous avez encore son numéro,
vous le voyez toujours?
Toujours, évidemment.
Vous êtes proche, votre copain?
Un petit peu, oui.
Wow. Ouais.
Ah, c'est
tu lui passeras le bonjour des frères Poupeau.
Les
frères Poupeau, te salue.
Et par ailleurs, tu as fait une grande interview de Bob Dylan que je regarde souvent sur Internet.
Ah, c'était pas hier, ça.
Non, hein, mais c'est une interview mythique pour les Dylanophiles.
Mais d'ailleurs, Antoine, si on est là, on parlait de Bob Dylan et tout ça. En tout cas, moi, quelqu'un qui a été très important dans mon envie de faire de la musique et tout ça, c'est vous-même. Parce que enfant, je ne ratais jamais Chorus. Mmh. Et c'est en regardant Chorus où j'avais envie de monter sur scène, de prendre une guitare et faire du rock and roll. Mmh. Je me rappelle le concert de, je sais plus, des Stray Cats, de Thin Lizzy ou des trucs comme ça, qui m'ont laissé scotché.
Dr. Feelgood.
Merci Antoine aussi de m'avoir...
Je vous en prie.
Moi,
c'est en vous voyant en langue de pute que je suis devenue comme ça. Mais c'est vrai. Un truc, quoi.
Je vous propose que nous continuions un petit peu sur ce thème. Allez-y, continuez, lancez. La cour n'est pas encore pleine. Non, merci, messieurs. Sur cette pochette, vous semblez tenir quelqu'un par le cou, mais quelqu'un qui n'est pas là. Vous avez un ami imaginaire?
Alors,
la personne qui devait poser les...
C'est Bob Dylan, donc. Non, en fait, Jean-Baptiste avait l'idée, en écoutant l'album, de faire une... Il avait pas envie d'une photo statique, il avait envie d'une photo en mouvement. Ouais. Il avait bien raison. Donc, en fait, non, c'est pas... Je tiens personne. En fait, je me casse la gueule vraiment. Mm-hmm. La photo, on
avec
avait
la
mis
guitare.
Des matelas. Ouais, là, j'ai flippé pour la guitare, d'ailleurs, ce jour-là. Mais je suis tombé. Il avait... Comme toujours, Jean-Baptiste, avant même de donner rendez-vous le jour du shoot et de toucher son appareil photo a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Et donc là, il avait cette idée de moi en train de me casser la gueule en mouvement et tout ça avec la guitare. Et donc, en fait, il y avait des matelas par terre. Donc, je tombais vraiment avec la guitare. J'ai du bol. Je n'ai pas cassé la guitare. Je ne me suis pas fait mal. Ensuite, il a effacé les matelas. Et c'est comme ça qu'on avait ce cliché, cette photo. Et j'en suis très content parce que je trouve l'image très forte. Et on n'y a pas pensé ni l'un ni l'autre. Mais c'est mon fils qui m'a remarqué que je faisais aussi le Y de mon prénom avec les bras comme ça.
Un peu comme un
Village
People, quoi, un peu.
Ouais, voilà, le Y de
Y de Yarod Stewart. Donc,
voilà, de Yarod Stewart.
Yarod. Ou de YMCA.
Je vais garder ça, Yarod Stewart.
On va pas revenir sur les années Johnny, hein, ça y est. C'est,
malheureusement,
affaire classée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez été directeur musical de Johnny pendant des années. Et là, vous vous retrouvez à passer de stade de 80 000 personnes à des clubs.
Ouais.
Vous retrouvez quelque chose d'essentiel là, dans votre contact avec votre musique.
J'ai toujours, en parallèle aux concerts et aux aventures avec Johnny, continué à jouer à l'époque avec Black Minou dans des clubs. C'est-à-dire que même déjà à l'époque, on faisait le Stade de France trois soirs de suite, le vendredi, samedi, dimanche, et le jeudi, je jouais dans un café qui s'appelait le Lautrec devant 60 personnes dans un bar. Donc j'ai toujours quand même gardé ce contact direct avec les clubs et les ambiances des trucs qui sont un peu les premières sensations qu'on ressent quand on démarre. On démarre pas à faire du rock'n'roll dans des stades ou dans des zéniths. On démarre dans des clubs, on démarre dans des bars, on démarre devant 30 personnes. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais lâché, de toute façon. Donc c'est pas un retour dans les clubs, c'est juste une continuité. Après, j'espère, et c'est de mon vœu le plus cher, que cet album et le prochain et le suite de ce que je vais faire me donnera la possibilité de rejouer dans des salles plus grandes, parce que j'adore les grandes salles. Mmh. Mais même, moi, je suis toujours fasciné par... Notre ami Bruce Springsteen le fait aussi, ou des gens comme Prince le faisaient énormément. Faire un concert, mon rêve, c'est ça, c'est de faire un zénith rempli à craquer et deux heures plus tard d'aller jouer dans un club. Voilà, donc ça, c'est le best of both worlds.
Melville, pour vous, côté cinéma, c'est exactement l'inverse, j'imagine.
Je vais faire du cinéma dans des petits clubs.
Dans des
striptease, quoi.
C'est-à-dire que si on doit parler de chiffres, le film de François Ozon, grâce à Dieu, a largement passé le cap des 900 000 entrées. Je sais que c'est difficile à prévoir ce genre de choses et à quantifier, mais est-ce que vous attendiez un tel succès avec un film sur ce sujet? En l'occurrence, la pédophilie dans l'église, pour ceux qui l'auraient raté.
Non, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que tant de gens se sentent concernés par ce fléau, mais enfin, en tout cas, c'est un film qui a beaucoup touché. Pas seulement en France, parce qu'il a été vendu dans beaucoup de pays et il marche aussi beaucoup à l'étranger. Ils en sont fans. c'est un film, je pense, qui est très très honnête, très bien fait, qui cherche pas à mettre en avant des égos, mais qui est au service de la cause. Et je pense que ça a vraiment touché les gens de façon pure, quoi.
Et Melville, on vous a vu cette année à la fois dans Grâce à Dieu, mais aussi dans le remake de la série The Fall, Insoupçonnable. Vous êtes donc passé en peu de temps de victime de prêtre à tueur en série. Vous avez besoin de quel genre de soupape? De quel genre de soupape de décompression vous avez besoin pour enchaîner ce genre de prestation? La musique,
peut-être.
Bonne
bouteille de vin. Ah, de la musique, absolument.
C'est ça, on revient à Dionysos, le dieu du vin.
Du vin, du rock, et voilà.
Non, mais vous passez facilement d'un rôle à l'autre?
Celui de la série, c'était long, parce que c'était un tournage qui a duré 8 mois, j'étais à Lyon, dans ma petite chambre, et au bout d'un moment, le fait de rentrer dans ce personnage assez noir, et il y avait une montée en puissance en plus dans les épisodes, ce qui fait que j'en suis sorti un petit peu attaqué. J'ai mis un petit peu de temps à redescendre et tout ça, et puis j'avais pas de rôle directement derrière. Donc j'ai passé un été un peu compliqué de redescente, comme on dit. Puis après, j'ai enchaîné sur autre chose, et puis voilà.
Et vous avez enchaîné avec le J'accuse de Polanski, qui est en fin de tournage.
Absolument. Dans lequel j'ai une dizaine de jours de tournage, j'ai pas un rôle important, mais c'était une expérience très forte.
Louis Garrel incarne le capitaine des Refus, Jean Dujardin le colonel Picard, et vous êtes...
Je suis Maître Laborie, l'avocat de Balzac, non. De Zola,
de Rod Stewart
et de Dreyfus.
Ça, c'est la pop culture, là.
Oui, je peux vous demander, sans rien spoiler, est-ce que Dreyfus finit par être innocenté?
Ah, ça, faut aller voir le film. Mais il y a toujours c'est une affaire qui est toujours...
C'est Black Mirror, sinon, c'est un autre... Ouais.
Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a encore des livres qui sont écrits en ce moment pour dire non, c'est un complot, de toutes ces conneries-là, quoi. Donc, non, ça va être un film très fort et qui va parler de beaucoup de choses et qui sera d'actualité, malheureusement, encore une fois.
C'est même étonnant qu'ils aient attendu si longtemps pour faire un film là-dessus.
Yarol, Melville, vous vous êtes engagé au début d'émission à jouer sur la scène de Pop, la scène que vous découvrez, regardez, vous retrouvez
devant un public.
Plus impressionnante que le Stade de France, je pense très sincèrement. Alors, je sais que c'est pas facile de se produire sur cette scène mythique devant Charline et moi-même, comme vous vous apprêtez à le faire, mais est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi?
On va essayer.
Alors, je vous laisse vous mettre en place, attraper vos guitares et vos basses, et dès que vous êtes prêts, vous me faites un petit signe, et je vous lance le pop du départ. Ok ?
On est prêts.
3, 2, 1...
Tes hanches, j'ai le sang qui brûle et deux jambes qui flanchent. j'adore.
Cet extrait de l'album Yarol sur la scène mythique de Pop à Pop, un titre interprété par Yarol et Melville Poupeau. Melville était à la basse, Yarol à la guitare, au chant et au tambourin à pied que je viens de découvrir.
Il joue du tambourin comme un pied. Ouais.
Merci infiniment, messieurs, d'être passés dans cette émission.
Merci beaucoup.
Merci, Yarol. Je rappelle que Yarol, votre nouvel album est disponible et recommandé évidemment par Pop à Pop. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert ce vendredi à Béthune, le 7 mai à Alençon, le 30 à Grès, le 31 à Juvigny, le 1er juin à Volvic, et je suis pas sûr qu'on y boive que de l'eau.
Excellent.
Album, l'album Songbook a été réalisé avec Benjamin Violet, lui aussi disponible et recommandé par Pop à Pop. Et je rappelle que grâce à Dieu, le film de François Ozon est toujours en salle et qu'il faut se précipiter le voir. Merci.
Merci
à
beaucoup.
Toute l'équipe.
Merci à vous.
De Pop à Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Élise, Christophe et Kevin, Kevin Pelon, Aurélien Esbon, notre
Kevin et Chim.
Et Rod Stewart, notre rédacteur en chef, Claire Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production à la programmation musicale, Chewbacca et Kevin Yousfi, notre stagiaire. Demain dans Pop à Pop, Pio Marmaille et Audrey Diwan. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, plutôt comme disent ceux qui font des tutos stage diving.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et elle est encore la hanche.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop 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 sur Instagram.